Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série de podcasts un peu particulière. L'un des piliers des Adultes de Demain est l'importance de la transmission. Et si on parle de transmission, il est bien évident de mettre en avant une population qui le fait si bien, les enseignants. Toutes les deux semaines, on vous propose de découvrir l'histoire d'un ou une enseignante pas comme les autres. Car ceux qui accompagnent les adultes de demain, ce sont ces personnes qui aiment plus que tout leur métier et qui œuvrent pour une société meilleure grâce à l'éducation. Pour ce premier épisode de la série, on a interviewé Audrey du blog et compte Instagram Étoiles et crayons gris. À entendre l'enthousiasme, la passion et la créativité d'Audrey, vous découvrirez comment son métier est devenu une vocation, son approche de l'enseignement et surtout ses anecdotes d'enfants qui font de son quotidien un véritable enchantement. Bonjour Audrey, nous sommes vraiment super contentes de vous avoir aujourd'hui pour cet épisode un peu spécial qui est de mettre en avant le métier de professeur qui nous passionne tant. Donc j'ai envie de démarrer cette conversation pour que vous nous expliquiez un petit peu plus votre histoire et notamment celle autour de Étoiles et crayons parce que on vous a rencontré grâce à Instagram et grâce à votre compte Instagram. Donc on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur cette histoire.
Bonjour Sylvie, bonjour Stéphanie. Alors tout d'abord, je suis très honorée d'avoir été choisie pour représenter mes collègues pour la première fois sur votre podcast. Alors en fait, l'histoire d'Étoiles et crayons gris, elle n'a pas commencé avec l'histoire d'Étoiles et crayons gris. Elle a commencé il y a un peu plus de 4 ans avec un autre pseudo que j'ai choisi vraiment à la va-vite parce que on m'avait invité à rejoindre la plateforme d'Instagram par curiosité pour les jolies photos qu'on y trouvait et parce que je venais d'avoir ma petite dernière, Alice. Et donc, c'était notamment pour y retrouver une maman que j'avais connue sur les réseaux sociaux quelques années avant. Et donc, je me suis connectée et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était Étoiles pour mes 3 enfants, qui sont mes petites étoiles, en fait, qui, on va dire, qui illuminent ma vie. Et donc, j'avais enregistré comme pseudo Étoiles de ma vie. Et au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte que mon compte prenait de l'ampleur, notamment parce que j'aimais bien la photo. Je suis devenue passionnée de photo. Et également parce que je commençais à partager également une autre partie de ma vie qui est très importante, à savoir mon métier. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas changer mon pseudo pour qu'il colle plus à ma vie et à mon image. Et j'ai cherché quelque chose qui était relatif à mon métier. Donc, je suis partie sur cette histoire de crayon. Alors, j'en ai discuté avec la communauté qui me suivait. Donc, on m'a proposé étoiles et crayons de bois, étoiles et crayons à papier. J'ai eu plein de propositions. Mais dans le Sud, on appelle ça un crayon gris. Donc, j'ai fini par me nommer étoiles et crayons gris avec le petit clin d'œil du crayon gris pour ma qualité d'enseignante. Donc, voilà comment ça s'est passé.
Super. Est-ce que vous pourriez donc nous en dire un petit peu plus sur votre métier et depuis quand vous l'exercez et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie ?
Alors, je fais ce métier depuis 2003. Et pourquoi je l'ai choisi ? Alors, depuis que je suis toute petite, je rabâchais à mes parents que plus grande, je ferais maîtresse ou princesse. Donc ça, ça a toujours fait rire tout le monde, parce que bon, princesse, c'est râpé, hein, même si j'ai souvent dit que j'étais la princesse du coup de mes enfants et de mon mari. Mais c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours été fascinée par mes enseignantes. Bon, moi, j'ai été une élève plutôt très scolaire et j'ai toujours adoré mes années d'école et notamment les années maternelles élémentaires. Donc, j'avais des étoiles plein les yeux quand je regardais mes maîtresses et c'est un métier qui m'a toujours plu. Donc, c'est naturellement que je me suis dirigée vers ce dernier quand j'étais un peu plus grande et que pendant qu'à la fin du collège, j'ai décidé de m'orienter vers cette voie-là. Voilà. Donc, depuis 2003, j'ai pas mal trimballé mes valises, on va dire, puisque les premières années, quand on est jeune et qu'on n'a pas d'enfants, bon, souvent, on est un petit peu loin de chez soi, on exerce son métier en tant que, alors moi j'appelais ça vulgairement bouche-trou quand j'étais enseignante les premières années parce que parfois c'est vrai que on se sentait un petit peu on se sentait pas forcément à sa place parce que pour moi la légitimité c'était d'avoir ma classe à moi et j'en rêvais et ce n'était pas possible. Mais avec le recul je me dis que les premières années pendant lesquelles j'ai exercé mon métier m'ont vraiment permis de me former, de savoir ce qui me plaisait. Parce qu'il y a toujours des niveaux qu'on aime plus que d'autres, et de me faire une idée sur les écoles qui m'entouraient. Donc, on va dire pendant les 13 premières années, j'ai fait ça. J'ai exercé ma profession avec des quart-temps, des mi-temps, sur tous les niveaux. J'ai eu des CPCM2, j'ai eu des classes de maternelle, j'ai eu des simples niveaux. J'ai exercé en zone plus ou moins difficile. Voilà, j'ai tout fait. Et depuis 3 ans, je me suis posée en triple niveau maternelle dans une école dans laquelle je me sens extrêmement bien. Et ça fait 3 ans que mon enseignement a pris je ne dirais pas un virage à 180 degrés parce que j'ai toujours été intéressée par les nouvelles pédagogies. Mais ça fait vraiment 3 ans que c'est encore plus différent pour moi et que vraiment, je suis très axée sur les nouvelles pédagogies. Voilà.
Super intéressant. Et j'ai lu notamment sur votre blog, vous racontez toute l'histoire de votre choix de devenir maîtresse et toutes les émotions par lesquelles vous êtes passée, notamment lors de l'affectation de votre classe où vous souhaitiez initialement enseigner pour les plus grandes classes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, en fait, initialement, non. Ce que j'aimais, c'était les petits parce que mes premiers postes, c'était avec des tout-petits, justement, c'était avec des petites sections de maternelle. C'est un poste que j'avais eu en tant que ce qu'on appelle brigade, c'est-à-dire remplaçant pour une longue durée. Donc, c'était pour remplacer une personne qui était en congé maternité. Et j'étais très jeune. Et quand je suis arrivée sur ce poste, les parents d'élèves m'ont regardé un peu de travers en disant « Ouh là là, mais celle-là, elle est super jeune. Qu'est-ce qu'elle vient faire là avec nos petits sur un poste où elles sont en doublon, avec une maîtresse qui avait toute sa légitimité puisqu'elle avait quasiment la cinquantaine. Donc, elle était… Elle avait de la bouteille, on va dire. Donc, j'ai eu du mal à faire ma place pendant les premiers mois. Et puis ensuite, les parents ont vu que j'avais un relationnel qui était chouette avec leurs enfants et que qu'à côté de ça, je travaillais. Donc, j'ai pris confiance en moi. Mais les premiers temps, c'est vrai que ce n'était pas facile. Et les premières années, j'ai eu pas mal de coups au cœur parce que j'ai toujours espéré avoir des petits, des maternelles, et c'était impossible pour moi puisque c'est vrai que la maternelle, c'est très, très demandé par les enseignants. Donc, il faut bien se mettre en tête que le plus souvent, on attend 20 ans, 25 ans pour avoir son poste en maternelle. Du coup, bah, je me suis tournée vers l'élémentaire par défaut, on va dire, puisque moi, j'aspirais à enseigner aux plus petits. Et je me suis rendu compte que bah, l'élémentaire, c'était super chouette aussi. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à enseigner au CP, au CE1, au CE2. J'avais toujours des niveaux qui me déplaisaient. C'était les CM1, CM2. Parce que j'avais cette image de maîtresse maternante, et donc je me disais qu'avec les plus grands, ce n'était pas compatible. Et finalement, on m'a envoyée en CM1, et puis en CM2, et puis en CPCM2, et j'ai appris à connaître aussi ce que c'était qu'enseigner aux plus grands. Je les ai découverts avec leur humour, et je me suis rendu compte que le côté maternant y était toujours pour certains, parce que ça reste quand même un petit cocon, l'école. Donc ça m'a plu également. Et j'ai commencé à me dire, bon, ben, faute d'avoir eu les maternelles, finalement, pourquoi pas les plus grands, ça me plaît. Allez, lançons-nous dans le cycle 3. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon mouvement donc pour la 13e année d'enseignement et que, ben, par le plus grand des hasards, j'ai atterri en maternelle triple niveau.
Vous avez de la chance, parce que c'est rare, les triples niveaux dans le système traditionnel.
Alors, oui, c'est effectivement. Alors, ça commence à se démocratiser quand même. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il y a encore 3 ans, c'était plutôt rare, et pour être tout à fait honnête, quand j'ai appelé l'école pour annoncer que j'avais eu le poste et qu'on m'a dit voilà, ben tu seras en triple niveau maternel, petit, moyen, grand, j'ai eu un gros moment de panique. Je les ai fait répéter au téléphone, je leur ai dit pardon, petit, moyen, grand, dans la même classe, oui. Et puis maintenant j'en ris avec mes collègues, parce que à l'époque, quand je me suis présentée à l'école, on m'a dit, voilà, il y a 2 classes de maternelle qui sont dans le groupe scolaire, donc bon, bah, on fonctionne comme ça, petit, moyen, grand. On m'a laissé m'y faire pendant 1 mois ou 2, je me sentais en rodage. Et puis, au bout d'un mois ou deux, ma collègue est venue me dire, alors, tu penses quoi de ce triple niveau? Et je lui ai dit, je ne reviendrai plus jamais en arrière. Et elle m'a dit, bon, bah, maintenant, je peux te le dire, en vrai, tu avais le droit de choisir, parce que avant toi, on fonctionnait en... petit, moyen, moyen, grand. On a eu fonctionné aussi en petit et moyen, grand. Mais l'année avant ta venue, on a testé le triple niveau et on a tellement aimé que on voulait vraiment rester sur ce fonctionnement-là. Donc, au début, on t'a fait croire que tu n'avais pas le choix, alors qu'en fait, ce n'était pas vrai. Et puis, bah, du coup, elles m'ont convertie et c'est resté comme ça. Voilà. Mais les premiers instants ont été très compliqués et les premiers mois ont été très perturbants pour moi parce que je me sentais en dessous de tout. J'avais une collègue à côté qui est maître formateur depuis 30 ans et qui est pour moi, qui était un modèle. Et j'avais vraiment l'impression de faire n'importe quoi à côté d'elle. Et finalement, je me suis rendu compte au bout de 2 mois que c'était des idées que je me faisais, qu'il fallait que je me fasse confiance et que je fasse confiance à mes élèves.
Surtout, oui.
Voilà.
Et qu'est-ce que vous appréciez dans cette approche triple niveau?
Ce que j'aime, c'est l'impression de travailler avec... Je dirais presque en famille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, maintenant, ma classe, j'ai l'impression que c'est une deuxième maison. Et les enfants, ils sont tellement bien et tellement autonomes que j'ai l'impression que je suis à la maison avec, pas mes enfants, mais avec une seconde famille. Et j'aime beaucoup le triple niveau pour le fait que les enfants soient beaucoup plus autonomes qu'ailleurs, qu'il y ait un tutorat naturel. Je trouve qu'il y a énormément d'empathie. Les grands et les moyens vont naturellement vers les plus petits qui, du coup, ne pleurent pas du tout, contrairement au simple niveau où, il faut l'avouer, moi, j'ai été plusieurs fois en petite section pure et ça pleure les premiers temps parce que pour eux, c'est un déchirement de quitter leur papa, leur maman. Alors qu'en triple niveau, ils voient que les copains sont souriants, sont à l'aise et donc, ben, il n'y a quasiment jamais de pleurs. Donc ça, c'est magique. Et le fait que les plus petits aient toujours les oreilles qui traînent, c'est également un gros élément moteur, je trouve, dans la classe. Les enfants évoluent beaucoup plus vite que dans un simple niveau. Je le vois vraiment depuis 3 ans, puisque c'est là, pour la première fois de ma carrière, mes grandes sections sont lecteurs à partir du mois de décembre. Ils écrivent en cursive, ils arrivent à compter au-delà de la centaine, voire au-delà du millier. Ils ont des réflexions qui sont extrêmement fines. Et ça, c'est vraiment particulier au triple niveau, je trouve, et la façon qu'on a d'aborder l'enseignement avec, avec les enfants. On a des petits groupes. Les enfants peuvent passer d'un groupe à l'autre. On voit si un enfant a besoin de passer dans la tranche du dessus parce que ben il s'ennuie. On voit si on a besoin d'aider un enfant et de revenir aux apprentissages fondamentaux. Donc dans ces classes triple niveau, ils ont aussi le temps d'apprendre. Ils manipulent extrêmement et c'est vraiment ce qui permet de faire en sorte que les apprentissages soient consolidés et soient pérennes. Donc, il y a plein de choses qui me plaisent vraiment dans ces classes-là.
Et du coup, vous les gardez plusieurs années ?
Oui. Alors, comme nous sommes deux à faire du triple niveau, on fait tout de même en sorte que les enfants aient les deux maîtresses sur les trois années pour qu'ils aient un référent différent. Mais malgré tout, ces enfants-là, on les a soit un an sur les trois ans, soit deux ans. Et comme la maternelle est un des côtés de l'école, on a un petit côté pour nous, en fait, ces enfants-là, finalement, sur les trois ans, ils nous voient quasiment toute la journée puisqu'on se retrouve pendant les récréations. On fait des échanges avec ma collègue. Souvent, l'après-midi, on prend les moyens ou les grands en petits groupes, l'une ou l'autre, on se les échange. Donc, les enfants nous voient sur les trois ans très régulièrement. Même si on n'est pas leur maîtresse officielle, on reste quand même un référent important pour eux.
C'est super. C'est super. Bravo.
Et qu'est-ce qui fait de vous une prof remarquable ? Alors, je sais que c'est une question difficile, mais je suis sûre que vous avez vos petites pratiques à vous d'enseignement. Je vois déjà que vous avez l'air complètement passionnée par votre métier, donc ça doit être forcément transmis aux enfants. Mais voilà, qu'est-ce qui fait de vous cette personne et cette enseignante remarquable ?
Bon, alors, ça, c'est sûr que je ne dirais pas de moi que je suis remarquable parce que bon, voilà, c'est difficile de dire ça de sa propre personne, mais c'est vrai que j'ai très souvent eu des retours très chaleureux des parents d'élèves, notamment parce qu'ils me remerciaient de la qualité de la relation que j'avais avec leurs enfants. Je pense vraiment que je suis faite pour la maternelle parce que j'ai ce côté deuxième maman. C'est vrai que je suis bienveillante, c'est vrai que je suis maternante avec les petits. Et je les fais rire. Et je pense que vraiment, la base de l'épanouissement de l'enfant, c'est la relation qu'il a avec son enseignant ou son enseignante. Il faut qu'il se sente à l'aise et en confiance pour pouvoir apprendre derrière. Donc, c'est, je pense, quelque chose qui joue beaucoup. Après, voilà, une maîtresse qui est très cadrante tout de même, mais qui est rigolote. Donc, avec les plus petits, bon, ben, en ce moment, on dédramatise le déconfinement en mode sanitaire, avec des masques sur lesquels je dessine des dents de vampire, une tête de souris. je leur fais des blagues, donc ça y fait aussi. Et puis, ben, j'essaie de renouveler mon enseignement régulièrement pour ne pas m'ennuyer et pour que les élèves ne s'ennuient pas non plus.
Super. Et vous avez dit notamment vous intéresser aux nouvelles pédagogies. Vous savez que forcément, ça nous intéresse, nous, ayant toujours baigné dans la pédagogie Montessori. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus ?
Alors, en réalité, je me suis rendu compte que, avant de m'y intéresser, je le pratiquais un peu naturellement dans mes classes, même si c'était des classes dans lesquelles l'enseignement était traditionnel. Donc, je le faisais sans le savoir. Et puis, en devenant maman, je me suis de plus en plus intéressée à ces nouvelles pédagogies. Et quand ma dernière aînée, avant qu'elle naisse, j'ai été arrêtée, j'ai été alitée un petit moment. Je me suis acheté des livres, j'ai regardé des émissions sur la pédagogie, sur l'enseignement. J'ai acheté donc des ouvrages sur Maria Montessori et son enseignement. Ma belle-sœur à l'époque, qui était aussi dans ce mouvement-là, m'a offert des stages. J'ai effectué des petits stages Montessori avec à l'époque mon bébé. Et puis, j'ai également acheté le livre de Céline Alvarez. J'ai assisté à des conférences et j'ai pu regarder des vidéos sur la pédagogie Freinet. Et j'ai également assisté à des séances de cinéma sur qui... Alors, je me rappelle plus du titre du film. Je crois que c'était Être et avoir.
Ah oui, Être et avoir.
Voilà,
oui.
Le film sur cet enseignant qui, justement, pratique la pédagogie Montessori. Et quand je l'ai regardé, je suis restée bouche bée. Et je me disais, mais comment il peut rester assis à regarder ses élèves et ne pas intervenir? Et comment les élèves arrivent à un tel niveau? Et donc, j'ai approfondi toutes ces lectures, j'ai regardé avec plus de précision tous ces films, et c'est là que j'ai commencé justement à mettre ça en place dans ma classe.
Super. J'avais envie de vous demander, qu'est-ce que vous trouvez difficile dans votre métier ? Je sais que vous véhiculez de vraies valeurs, de bienveillance, d'optimisme, et on le voit bien dans vos propos, c'est un vrai métier passion, et vous renseignez même au-delà de votre temps de travail sur les spécificités de ce métier, mais est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez difficiles tout de même ?
Oui, quand même, il y a des choses qui sont extrêmement difficiles, notamment la pression qui est de plus en plus pesante sur les épaules des enseignants et directeurs. Je trouve que le côté administratif et logistique devient vraiment très pesant, alors que c'est vrai que le côté pédagogique, ça devrait prendre 99% du temps, mais pour le moment, c'est compliqué et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce côté administratif, je le trouve très lourd. Parfois, le relationnel avec les parents est aussi très compliqué. Alors, ça devient de plus en plus compliqué, je trouve, avec ces histoires de Vigipirate, puisque maintenant, ils n'ont même plus le droit de mettre les pieds dans l'école. Donc, il faut trouver des alternatives pour communiquer. Et quand on ne peut pas communiquer, c'est très frustrant pour les parents. Et je trouve que, du coup, la communication avec les enseignants est biaisée. Donc, j'essaie vraiment de faire en sorte de continuer à communiquer avec les parents, hein, par mail, par téléphone, avec le bloc de classe, en allant, en discutant avec eux au portail ou à l'extérieur de l'école. Donc ça, c'est aussi un côté qui est difficile. Après, il y a encore une autre chose, c'est que on a des enfants qui sont très, très différents selon les écoles, au sein d'une même classe. Donc, il faut vraiment être complètement polyvalent et se transformer en pieuvre pour adapter son enseignement à tous nos petits élèves. Donc ça, c'est un travail extrêmement compliqué et épuisant, il faut le dire. Et puis, je voulais dire une dernière chose, je ne sais plus. Ah oui, et puis, ce qui est aussi difficile, c'est que quand on est un enseignant passionné, comme beaucoup, beaucoup le sont, on a beaucoup de mal à rentrer chez soi, à fermer la porte et à dire « c'est bon, ma journée est terminée ». Souvent, on le dit en rigolant, mais on dort école, on se douche école, on mange école. Quand on trie à la maison, on retrouve un bout de carton et on est déjà en train d'imaginer ce qu'on va faire avec. On récupère tous les rouleaux de papier toilette et les bouchons parce qu'on sait qu'on va en faire des ateliers autonomes. Donc, il y a eu des nuits où je me suis réveillée en pensant à ce que j'allais écrire dans mon cahier journal pour la semaine d'après. Donc, c'est très compliqué de débrancher. C'est vraiment un métier dans lequel on ne peut pas se dire « c'est bon, ma journée est finie, je ferme la porte, j'oublie tout ». Et puis, bien évidemment, je passe outre le fait que, en dehors de l'aspect pédagogique, on a des élèves qui nous font nous dire « je ne peux pas débrancher non plus ». Quand on rentre chez soi, il y a des situations familiales aussi qui nous font nous dire « je ne peux pas me mettre un voile devant les yeux ». Donc, il y a plein de choses qui font que c'est un métier dans lequel on est impliqué à 3000% et pour lequel on ne peut pas débrancher quand on rentre chez soi. Quoi.
Vous parliez justement des enfants dans vos classes où vous avez des enfants très différents les uns des autres.
Oui.
Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a un petit souci, quoi, moi je le vois dans ma classe, hein, de formation, parce que parfois on ne sait pas, quoi, on ne sait pas forcément s'occuper d'un enfant à besoin spécifique, on n'a pas appris. Quoi.
Alors, c'est vrai. Alors moi, à l'époque où j'ai passé le concours, l'IUFM était encore d'actualité. On avait des quelques petits stages dans l'année. Après, c'était du théorique, mais c'est compliqué quand on n'est pas en immersion dans la classe de voir ce que ça va donner. Maintenant, les jeunes enseignants ont des immersions beaucoup plus précoces en classe, mais pas forcément les outils pour pouvoir adapter leur enseignement à tous les profils d'enfants. Donc, c'est vrai qu'on est souvent désarçonnés, notamment les premières années. Après, on a des propositions de ce qu'on appelle des animations pédagogiques qui sont axées justement sur ces profils d'enfants, mais peut-être pas assez à mon goût. Donc, il faut vraiment se tourner vers des référents pour être mieux formé et savoir répondre avec plus d'efficacité pour éviter justement des confrontations, des échecs. C'est sûr qu'on pourrait être formé différemment pour pouvoir répondre à tous les enfants qui se trouvent en face de nous.
Et j'aime beaucoup le fait aussi que vous appuyez sur le côté très humain et que votre rôle de professeur, même pour ces enfants, va au-delà seulement de la salle de classe et que vous savez certaines choses qui se passent à la maison pour certains et que vous savez que vous avez également votre rôle à jouer.
Tout à fait. Déjà, je leur dis, hein, quand ils arrivent à l'école, ils savent qu'on met des petits chaussons et je leur ai expliqué qu'on mettait les petits chaussons parce qu'on était comme à la maison. Donc, les enfants ont pris rapidement cette habitude-là. Ils ont de quoi ranger et nettoyer leur petite classe. Alors, au début, ça faisait rire mon ADSEM qui ne comprenait pas pourquoi je faisais ça et qui m'a dit bah oui mais bon le soir c'est moi qui range normalement et je lui avais répondu bah c'est leur classe, c'est leur matériel, donc je leur ai expliqué que j'achète pour eux pour qu'ils travaillent avec, pour qu'ils jouent avec, donc c'est normal qu'à la fin de leur atelier ou qu'à la fin de la journée ils apprennent à laisser leur espace de vie propre et rangé. Ça fait ça les aide à grandir, ça permet d'apprendre avec plus de sérénité, et ça fait plaisir à Alima qui travaille avec nous. Donc les enfants sont tout contents d'avoir une classe à l'image de tous. Et donc voilà, dès qu'ils arrivent en classe, je leur explique que c'est un petit peu chez eux. Voilà. Ça permet à certains d'oublier ce qui se passe chez eux, il faut dire ce qui est. Et puis à d'autres d'être beaucoup plus vite à l'aise dans ce lieu dans lequel il reste 8 heures par jour, quoi.
Et est-ce que c'est pas difficile parfois du coup d'arriver à mettre une barrière, notamment pour ceux qui ont besoin de l'école un peu comme un échappatoire, de se limiter à son rôle d'enseignant et de pas empiéter trop non plus sur ce qui se passe dans la vie privée?
Ah bah si, ça c'est sûr que c'est une des parties difficiles de notre métier, ça c'est certain. De savoir doser notre rôle et savoir ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on ne pourra pas faire et ce qu'on peut également faire, mais en sachant que derrière, il y aura des conséquences.
Oui, voilà. Complètement.
Ah, c'est hyper difficile. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de votre ADSEM. Ces personnes ont un rôle très important. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage?
Oui.
Quel est le rôle que vous lui donnez?
Alors, pour moi, c'est mon binôme. Et c'est quand, alors j'ai déjà travaillé avec plusieurs ADSEM justement puisque j'ai écumé pas mal d'écoles pendant ma carrière. Bon là depuis 3 ans donc j'ai la même et on a un lien fort qui se construit puisqu'on est toute la journée ensemble. Et quand je suis arrivée dans l'école et que j'ai commencé à lui expliquer ce que j'avais envie de mettre en place, elle m'a dit qu'elle n'était pas habituée à ça, mais ça lui a fait extrêmement plaisir de voir que son rôle se transformait et que je lui donnais des tâches qui étaient super gratifiantes parce que son rôle avec les enfants est devenu d'autant plus intéressant et d'autant plus important et ne se limitait plus à l'aspect cantine, passage aux toilettes, enfin tout ce qui est logistique avec les tout petits. Et puis j'ai discuté avec donc la seconde ADSEM de la classe avec qui je m'entends très bien aussi. Et dans les premiers jours de mon arrivée, je ne sais plus ce qu'on était en train de dire et je lui ai dit bah oui parce que j'ai expliqué aux collègues que comme nous sommes tous collègues et elle m'a coupé, elle m'a dit tu nous appelles des collègues? Mais je lui ai dit bah oui on travaille ensemble toute la journée. Elle m'a dit mais tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir de dire que tu me considères comme une collègue et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre nous. Et je lui ai dit, ben non, pour moi, on travaille tous ensemble, donc il n'y a aucune hiérarchie. Donc voilà, je m'entends très bien avec les ADSEM parce que ben, j'estime que ce sont des collègues et que chacun participe au bon déroulement de la journée de nos petits bouts et que pour bien travailler ensemble, il faut qu'on crée un lien justement entre adultes, quoi.
Mm. Et comment vous gérez votre double casquette maman et professeur? Parce que on le voit sur votre compte Instagram, votre rôle de maman est aussi un rôle super important pour vous. Donc, comment arrivez-vous à gérer ça, sachant qu'on se rend bien compte que vous vous donnez à fond pour ces deux rôles-là?
Oui, effectivement. Parfois, c'est vrai que quand je rentre chez moi, je suis fatiguée et j'ai un petit peu moins de patience avec mes enfants parce que j'ai passé toute ma journée avec mes élèves. Mais ça, je pense que de toute façon, tous les enseignants le vivent aussi, hein, parce qu'on est à, 100% avec une classe de 22, 25 ou 30. Et quand on rentre chez soi, ben c'est compliqué d'avoir la même patience avec ses enfants. Je pense desquels on attend aussi beaucoup quand on est enseignant. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Donc c'est pas facile d'avoir cette double casquette. Mais après, ça a aussi ses avantages parce que, ben, par exemple, là, pendant la période qui vient de se terminer, j'avais clairement un avantage par rapport aux autres parents, c'était celui d'avoir la pédagogie pour enseigner à mes enfants à la maison. Donc, parfois c'est bien, parfois c'est plus difficile. Après, j'ai également testé cette année le fait d'avoir son propre enfant dans ma classe, chose que j'ai rêvé de faire avec mes deux aînés, mes garçons, que je n'ai pas pu faire et qui m'a beaucoup frustrée quand j'étais jeune enseignante, parce que j'étais obligée de les déposer dans une école et de partir dans une autre. Et cette année, j'ai pu réaliser mon rêve, on va dire, avec ma dernière. Sauf que je me suis rendu compte que la relation fusionnelle que j'avais avec ma petite dernière n'était finalement pas un avantage à l'avoir ensuite dans ma classe, parce qu'elle-même, elle a eu beaucoup de mal à faire la différence entre la maman et la maîtresse. Donc ça, pour un enfant, je pense que c'est aussi extrêmement difficile à vivre, parce que c'est vraiment... inhérent à la sensibilité de l'enfant en question. Ça fait vraiment partie du caractère de l'enfant, et du coup certains peuvent le faire avec leurs parents et d'autres pas. Et donc la conclusion que j'en ai tirée avec la mienne, c'est que l'année prochaine elle ira chez une autre maîtresse, parce que je me dois en tant que maîtresse d'accorder autant de temps à mes autres élèves, et elle n'avait pas encore compris que c'est un métier pour moi aussi, quoi. Donc elle restera à côté de moi, mais pas dans ma classe. Mais j'ai testé, j'ai voulu le faire.
Moi, j'ai eu mes enfants dans ma classe. J'en avais même trois à un moment. Mais je pense que comme ils m'avaient toujours vue dans ce rôle-là, c'était plus facile pour eux, en fait.
Oui.
Peut-être que votre fille, c'est parce que tout d'un coup, elle a découvert que sa maman, qui était à elle, fallait qu'elle la partage avec d'autres.
Tout à fait.
Et c'était plus facile parce qu'ils m'ont tout le temps vue avec des enfants et tout ça. Et donc, ils ont grandi là-dedans. Je pense que c'est pour ça que c'était plus facile.
Ah oui, non, elle, ça a été la découverte. Clairement, ça a été la découverte. Après, je pense vraiment qu'avec mes aînés, ça se serait beaucoup mieux passé. Donc, je l'ai senti parce que j'ai eu l'occasion de remplacer dans les classes dans lesquelles mes enfants, mes garçons étaient. Et j'ai vu que l'attitude n'était pas du tout la même. Donc, c'est aussi dû à ça. Mais c'est vrai que pour la plus petite, son entrée à l'école, ça a été la découverte. Et ça a été la découverte du métier de sa maman. C'est vrai.
Est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager sur un moment particulièrement fort que vous avez vécu dans votre vie d'enseignante?
Oui. Alors, oui, effectivement, j'en ai un. Alors, quand mon aîné avait... un an, j'ai repris le travail, et donc j'étais dans une classe de CM1, CM2, non pardon, CE2, CM1, CE2, CM1, dans laquelle il y avait un petit garçon qui était à mes yeux un enfant précoce, et qui était vraiment un écorché vif. C'était le fils d'une collègue enseignante qui était désespérée parce que c'était très très compliqué la gestion des émotions avec son fiston. Et en classe, les débuts ont été également un petit peu compliqués avec moi. J'étais à mi-temps sur cette classe, donc il avait également une autre collègue qui avait une autre façon d'aborder son enseignement et d'aborder son relationnel avec les élèves. Donc moi, j'avais toujours ce côté un petit peu maternant, et l'affect jouait beaucoup avec certains, et notamment avec ce petit garçon. Et j'ai réussi à l'amadouer par le relationnel. Et finalement, l'année s'est bien déroulée. Il a commencé à accepter le travail. Et puis, bah, forcément, hein, j'ai individualisé l'enseignement. Donc, il a fini par faire tout à fait autre chose par rapport à ses petits copains. Mais il y avait toujours cette barrière. En fait, c'était un petit garçon qu'on pouvait pas physiquement approcher. Hein. En fait, autant je pouvais toucher l'épaule du petit copain pour lui faire une blague, autant celui-là, c'était vraiment très difficile de le faire sourire. C'était très difficile de l'approcher. Et donc, il y avait toujours cette retenue. Et en fin d'année, quand j'ai quitté mes élèves, tout le monde m'a dit au revoir. J'ai eu des enfants qui m'ont pris dans leurs bras. J'ai eu des bouquets. Bon, c'est toujours le petit pincement au cœur de fin d'année. Et cet enfant m'a dit au revoir, maîtresse. Et je lui ai dit au revoir. Et puis, tout le monde est sorti. Et je l'ai vu. Il n'est pas sorti directement comme les autres. Il a ralenti le pas. Et quand tout le monde est parti et qu'il s'est retrouvé tout seul dans le couloir, il s'est retourné et il s'est jeté dans mes bras. Et
ça fait pleurer.
Ça donne des frissons encore.
Il y a 11 ans. Et ça, je n'oublierai jamais. Donc,
c'est beau.
Donc voilà, je me suis dit, j'ai tout gagné cette année. J'ai tout gagné avec lui. Quoi. Donc voilà. Ouais.
Je pense que c'est ça qui est vraiment magique dans ce métier-là.
Ah oui, oui. Ouais, ouais. C'est la récompense, c'est les enfants. Quoi.
Ouais. Voilà. C'est beau. Super. Et est-ce que vous avez des rêves futurs quant à votre métier, des choses que vous avez envie de réaliser dans le futur ?
Honnêtement, à ce stade de ma carrière, j'en ai pas énormément. J'ai l'impression que vraiment, j'ai trouvé ce que je voulais faire et j'ai trouvé ma façon d'enseigner. Après, bien évidemment, hein, si je peux avoir encore plus de super matériel, je ne dirais pas non. mais au niveau du poste, je n'ai pas l'envie d'évoluer. Pour le moment, je suis bien en maternelle. J'ai envie de rester en triple niveau et d'approfondir cette connaissance du triple niveau. C'est la seule chose qui m'intéresse pour le moment. Devenir maître formateur, on me l'a proposé. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Je préfère être dans ma classe. Peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Mais la seule chose qui est dans mes projets actuellement, c'est de me perfectionner dans ce type d'enseignement et dans ces pédagogies nouvelles parce que c'est vraiment très intéressant et très porteur. Et j'en vois vraiment les bénéfices depuis 3 ans. Donc, c'est la seule chose que j'ai pour l'instant en vue.
Super. Et j'ai envie de vous demander aussi, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez changer dans le modèle actuel si vous aviez une baguette magique? Est-ce qu'il y a des choses que vous changiez? Donc, vous avez parlé de la partie administrative. Mais est-ce qu'il y a autre chose?
Outre cette partie, si on pouvait avoir dans toutes les écoles des classes avec des effectifs bien moindres, ça serait magique. Parce que forcément, quand on enseigne à une classe de 15 ou quand on enseigne devant une classe de 30, le temps accordé à chacun n'est pas le même, malgré tous nos efforts. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, je pense que si tous les enseignants pouvaient s'ouvrir aux classes multiples et comprendre que c'est vraiment, vraiment un bénéfice pour les élèves, ce serait fabuleux parce que pour être maintenant en pleine immersion dans ce type d'enseignement, je vois vraiment la différence. Donc, ce serait chouette d'inviter les jeunes enseignants à découvrir ce que peuvent être les classes à niveau multiple et leur faire comprendre qu'il ne faut pas en avoir peur parce que c'est naturel en fait pour les enfants d'être avec des enfants d'âge différents et que l'entraide y est, l'empathie y est, le fait d'être toujours en alerte, c'est intéressant pour eux. Le fait de pouvoir adapter son enseignement, du coup, d'avoir une grande marge de manœuvre et de pouvoir différencier son enseignement par rapport à chaque élève, c'est beaucoup plus intéressant à faire dans une classe multiniveau. Donc voilà, j'aimerais bien que dans la formation, ce soit un petit peu intégré et que cela fasse moins peur aux collègues qui arrivent dans ce métier.
Super. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner à toutes les personnes qui n'osent pas se lancer dans cette voie, à cause notamment de certains préjugés? Nous, on a interviewé notamment des personnes qui ont décidé de se reconvertir et on entend de plus en plus ce genre d'histoire de personnes qui retournent vers les métiers de l'enseignement mais qui n'avaient pas osé y aller initialement. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces personnes-là?
Mais alors, la première chose, c'est que je pense que pour faire ce métier-là, il faut être passionné parce que C'est vrai que on a, on entend le, il y a des vacances et ça, mais en réalité, si on veut vraiment être enseignant et qu'on veut s'éclater dans ce métier, il faut vraiment être passionné. Il faut s'attendre à travailler chez soi, à ne pas débrancher justement, et il faut s'accrocher parce que ben l'opinion publique n'est pas toujours très favorable, et donc ça, il faut essayer de d'occulter les préjugés que peuvent avoir aussi les gens qui ne sont pas dans ce métier-là. Donc je pense que voilà, il faut se dire qu'il faut s'investir et qu'il faut il ne faut pas écouter ce qu'on peut entendre sur notre métier. Il ne faut rien lâcher parce que le concours, je pense, est toujours aussi difficile qu'à l'époque où moi je l'ai passé. Et il faut s'accrocher quelques années parce que quand on se lance dans ce métier-là, eh ben c'est vrai que en débutant, on n'a pas toujours le choix de la classe. Donc on peut tomber sur des niveaux qui nous plaisent moins, on peut être loin de chez soi et se sentir complètement seul. Donc il faut se faire un petit peu violence et se dire que les années qui suivront seront meilleures. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à demander conseil aux collègues qui nous entourent. Il faut toujours laisser la porte de sa classe ouverte pour travailler avec les autres et pas tout seul. Parce que l'émulation et l'entraide entre adultes aussi, c'est extrêmement important. C'est un gros moteur dans ce métier. Et moi, je remercie ma directrice et je remercie les collègues qui m'entourent parce que vraiment, je me sens, je me suis sentie portée dès le début par une équipe. Et je pense que c'est extrêmement important au niveau motivation. Donc, voilà.
Super. Et ben merci beaucoup pour ces propos qui ont été complètement passionnants et qui donnent vraiment envie de faire ce métier et qui prouvent que c'est un véritable métier passion. On partagera bien sûr le lien de votre compte Instagram et de votre blog parce que c'est une petite mine d'or, donc je suis sûre que tous nos auditeurs adoreront découvrir cela. Donc merci mille fois, Audrey, pour ce moment de partage.
Merci beaucoup.
D'avoir permis de partager ma passion et mon métier. Je suis très honorée d'avoir été la première à pouvoir le faire.
Super. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.